Voix Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibault avec vous. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir. Dans l'est de la RDC, une incursion rebelle a fait 9 morts à Bukavu, capitale du Sud Kivu. En Éthiopie, les rebelles Oromo, alliés aux Tigréens du TPLF, affirment que la prise d'Addis Abeba est proche. COP26, l'Afrique qui pollue le moins exige le paiement des dégâts causés par le changement climatique. Ici aux États-Unis, un républicain remporte le poste de gouverneur de l'État de Virginie dans des élections considérées comme test pour les démocrates. Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord, le journal. En République démocratique du Congo, une incursion d'hommes armés à Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu, a fait, selon les autorités, 6 morts parmi les assaillants et 3 chez les forces de sécurité qui disent avoir arrêté 36 rebelles. Le point avec notre correspondant à Bukavu, Ernest Mouero.
Le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje, parle de 6 assaillants tués, 36 capturés, 14 armes de guerre saisies et 2 militaires et 1 policier tués. L'armée a recommandé aux habitants de rester à la maison pendant qu'elle tente de contrôler la situation. Un fait qui a frappé l'imaginaire, les rebelles ont disparu comme ils sont venus. Les bureaux de coordination de la société civile déplorent l'assassinat des 2 civils et plusieurs blessés par balles. Son président Adrien Zawadi appelle les services de sécurité à redoubler d'efforts et exige une audience publique pour juger les personnes arrêtées. Cette attaque est attribuée à la coalition des patriotes congolais pour l'application de l'article 64, CPCA à 64, un mouvement jusqu'alors inconnu du grand public. Depuis Bukavu, Ernest Mouero pour VOA Afrique.
La prise de la capitale éthiopienne Addis Abeba est une question de mois, si ce n'est de semaines, si les choses continuent dans la dynamique actuelle, a indiqué aujourd'hui un groupe rebelle Oromo allié aux Tigréens du Front de libération du peuple du Tigré qui combattent des troupes pro-gouvernementales dans le nord de l'Éthiopie. Plus de détails avec Nanit Talani.
Les combattants de l'armée de libération Oromo et du TPLF se sont déjà rejoints et sont en contact constant, a affirmé Odaa Tarbi, porte-parole de l'armée de libération Oromo, assurant que la chute du premier ministre Abiy Ahmed est courue d'avance. Ces déclarations font écho à celles d'un porte-parole du TPLF, Getachew Reda, qui avait affirmé en juillet « S'il faut marcher sur Addis pour protéger le Tigré, nous le ferons ». Les rebelles tigréens ont revendiqué ce week-end la prise de 2 villes stratégiques à 400 km au nord d'Addis Abeba, sans exclure de marcher sur la capitale. Leurs alliés, les rebelles Oromo, ont annoncé être entrés dans plusieurs localités au nord d'Addis Abeba. Malgré ces démentis sur une progression rebelle, le gouvernement d'Addis Abeba a décrété hier l'état d'urgence sur tout le territoire, appelant les habitants à s'organiser pour défendre leur ville. Les autorités pourront enrôler tout citoyen en âge de combattre et possédant une arme ou suspendre des médias soupçonnés d'apporter un soutien moral direct ou indirect au TPLF, selon un média d'État. Le premier ministre Abiy Ahmed a promis ce mercredi de noyer l'ennemi dans son sang et rendre sa gloire à l'Éthiopie.
Par ailleurs, l'émissaire américain pour la Corne de l'Afrique, Jeffrey Feltman, va se rendre demain et vendredi en Éthiopie pour appeler à une solution pacifique. Au Nigeria, les secours continuent de fouiller les décombres de l'immeuble qui s'est effondré il y a 2 jours à Lagos. Au moins 22 personnes sont mortes, selon un dernier bilan communiqué ce matin. Au Sénégal, le président Macky Sall a salué l'attribution du prix Goncourt à son compatriote Mohamed Mbougar Sarr comme une magnifique consécration. Lauréat de ce prestigieux prix littéraire français pour son roman La plus secrète mémoire des hommes, Mohamed Mbougar Sarr devient à 31 ans le premier écrivain d'Afrique subsaharienne à remporter le Goncourt. Nous y reviendrons dans la partie magazine de cette édition. dans le Sahara occidental. Trois Algériens ont été tués lundi dans un bombardement ayant pour cible des camions faisant la liaison entre la Mauritanie et l'Algérie. L'agence officielle algérienne APS a attribué ce bombardement aux forces d'occupation marocaines. Longue de quelques 3500 km, la route reliant Nouakchott à Ourgla, dans le sud algérien, longe le Sahara occidental. Au Mozambique, l'armée a annoncé le lancement aujourd'hui par l'Union européenne d'une mission de formation militaire pour aider les forces armées locales à lutter contre les djihadistes. L'UE a envoyé en septembre 1100 soldats chargés de former pendant 2 ans des unités d'intervention rapide. L'Union fournira également des armes non létales. L'Afrique, émetteur insignifiant de gaz à effet de serre, est le continent le plus vulnérable face au changement climatique. Les leaders africains ont appelé au financement de plusieurs milliards de dollars pour son adaptation à l'occasion de la COP26. Nous faisons le point avec Rosine Mounezero.
Mes compatriotes endurent le tribut d'une crise climatique à laquelle ils n'ont pas participé. Dans le sud de mon pays, plus de 1,3 million de personnes sont dans une situation de détresse alimentaire, a souligné le président malgache André Rajoelina à la COP26. Quant au président de la RDC, Félix Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine, l'Afrique qui ne contribue à hauteur d'environ 3% aux émissions de gaz à effet de serre ne peut pas être livrée à elle-même pour en gérer les effets de plus en plus néfastes. Le président Tshisekedi a annoncé le soutien de l'Union africaine à un programme de 25 milliards de dollars de la Banque africaine de développement et du Centre mondial pour l'adaptation basé aux Pays-Bas pour accélérer l'initiative d'adaptation pour l'Afrique qui avait été lancée en 2015 lors de la COP21 qui a débouché sur l'accord de Paris. Il en a appelé aux pays développés pour financer le même montant et faire en sorte que le projet soit totalement financé d'ici la fin de la prochaine COP. Prévu sur le continent africain en Égypte.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Élections aux États-Unis, le républicain Glenn Youngkin remporte le poste de gouverneur de l'État de Virginie. Dans le New Jersey, la course est très serrée entre le démocrate Murphy et le républicain Schiattarelli, selon des résultats partiels. Ces consultations étaient considérées comme un test pour les démocrates et pour le président Joe Biden. Le point avec Jean-Roger Bion.
La victoire de Glenn Youngkin offre aux républicains une stratégie pour reconquérir le Congrès où les démocrates disposent d'une majorité fragile aux élections de mi-mandat en novembre 2022. La large avance de son adversaire démocrate Terry McAuliffe a fondu en quelques semaines dans cet État qui avait pourtant massivement voté pour Joe Biden lors de la présidentielle il y a un an. L'élection pour le poste de gouverneur dans le New Jersey se joue très serrée. Selon les dernières tendances, le républicain Jack Schiattarelli et le démocrate Phil Murphy sont au coude à coude. Ces élections étaient perçues comme un baromètre du soutien à la politique du président américain, même s'il s'en est défendu. Dans l'élection du gouverneur adjoint en Virginie, la républicaine Winsome Sears, une afro-américaine, était aussi en passe de remporter une victoire historique en devenant la première femme issue des minorités à cette fonction. Les démocrates ont toutefois remporté une victoire attendue avec l'élection d'Eric Adams, un Africain-américain, ancien policier et syndicaliste antiraciste, comme maire de New York.
Toujours aux États-Unis, la Cour suprême examine ce mercredi un recours contre une loi de New York et sa décision pourrait permettre à tous les Américains de sortir armés de leur domicile. L'audience la plus importante consacrée aux armes à feu depuis plus de 10 ans suscite de fortes appréhensions chez les partisans des régulations renforcées pour le port d'armes. Aux États-Unis, les injections de vaccins contre le Covid-19 aux enfants de 5 à 11 ans ont commencé hier soir, une nouvelle étape de la campagne d'immunisation saluée comme un tournant par le président Joe Biden. L'Organisation mondiale de la santé a accordé l'homologation d'urgence au vaccin anti-Covid Covaxin, le premier développé en Inde. Ce vaccin efficace à 78% est recommandé pour tous les groupes d'âge à partir de 18 ans. L'Allemagne est touchée par une pandémie massive des non-vaccinés, a mis en garde le ministre de la Santé, appelant à un durcissement des mesures pour endiguer cette résurgence. Plus d'un millier d'Ukrainiens ont manifesté aujourd'hui dans le centre de Kiev contre la vaccination contre le Covid-19 et des restrictions pour les non-vaccinés, alors que le pays est frappé de plein fouet par une nouvelle vague. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Nanit Talani.
Au Mali, les autorités ont fait fermer 16 boulangeries et points de vente de pain accusés de ne pas respecter les prix consensuels et d'avoir exagérément augmenté le prix de la baguette. Lors d'une rencontre avec les boulangers, le gouvernement malien avait proposé une augmentation de 225 à 250 francs CFA la baguette, mais certains boulangers l'ont fixé à 300 francs CFA. La Direction générale du commerce assure que les sanctions vont demeurer jusqu'à la résolution effective de la situation. La croissance du Niger devrait rebondir à 5,6% en 2021 contre 3,6% en 2020 selon le FMI. Cette croissance devrait être stimulée par la mise en œuvre du nouvel oléoduc qui est en train d'être construit entre le Niger et le Bénin et dont l'achèvement est prévu pour l'an prochain. Cet oléoduc de 1980 km devrait permettre l'acheminement d'environ 90 000 barils de pétrole brut par jour entre les deux pays voisins. Terminons par la Côte d'Ivoire qui vise un taux de transformation de 50% à l'horizon 2025 de sa production brute de cajou, appelée aussi anacarde. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement ivoirien compte sur un accord de 200 millions de dollars conclu avec la Banque mondiale en 2018 pour l'aménagement de 4 zones agro-industrielles dédiées à la transformation de la noix de cajou.
Maintenant, la page sport présentée ce soir par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Le maillot jaune change d'épaule autour du Faso. Il est désormais revêtu par l'Algérien Hamza Yassine, vainqueur de la 6e étape courue aujourd'hui entre Nagringo et Tinkoudougou, 153 km 300. Temps mis 3h13 minutes 2 secondes. Nous retrouvons sur les routes du Tour notre correspondant Kader Traoré.
L'Algérien Hamza Yassine est tout simplement la vedette de cette 6e étape du Tour cycliste international du Faso. Non seulement il a remporté la victoire d'étape du jour Nagringo-Tinkoudougou, longue de 153 km 300, il a aussi fait méba sur l'essentiel des maillots mis en jeu. La tunique verte au point, la rose des sprints intermédiaires, la blanche du premier des Africains, et pour tout couronner, il a arraché le maillot jaune du classement général que détenait le Belge Rutger Wouters. L'heureux du jour, Yassine, pense que sa victoire est une stratégie d'équipe.
Notre équipe a tout travaillé pour moi. Ils m'ont fait confiance toute la course. Et pour gagner l'étape, on vise cette étape.
Hamza Yassine a mis 3h13 minutes 33 secondes pour parcourir les 153 km 300, soit une vitesse moyenne horaire de 47,523 km/h. Une allure qu'a du mal à suivre le Cameroun, toujours englué dans le ventre mou du classement. Clovis Kamzon Abessolo est le capitaine des Lions Indomptables.
On est trop attendu parce qu'on avait fixé un objectif dès le départ. Je pense que jusqu'à présent, on n'a pas encore atteint. Il y a 4 jours devant nous, on continue à se donner pour pouvoir gagner au moins une étape et améliorer le classement par équipe.
Demain, c'est une autre épreuve. C'est de la course contre la montre entre Kupela et Zorgo sur 33 km. Une épreuve où les Africains auront du mal à suivre car ils n'ont pas les machines adaptées pour cette course. Kader Traoré à Tinkoudougou pour VOA Afrique.
Football, suite ce soir des matchs de la 4e journée de la Ligue des Champions en Europe, Liverpool de Sadio Mané, Mohamed Salah et Naby Keïta peut valider sa qualification pour les 8e de finale en 4 succès contre l'Atlético Madrid, tout comme l'Ajax Amsterdam de l'Ivoirien Sébastien Haller qui se déplace à Dortmund. Manchester City de l'Algérien Riyad Mahrez aborde en grand favori son match contre Bruges. Pour le Paris Saint-Germain d'Idrissa Gueye, le déplacement à Leipzig rappelle le mauvais souvenir d'une défaite en novembre 2022. Besiktas fait face au Sporting Portugal. Leader surprise du groupe D, le shérif Tiraspol affronte l'Inter Milan. NBA, le Heat s'est imposé avec autorité à Dallas 125-110 pour rejoindre Chicago en tête de la conférence Est. Les Los Angeles Lakers s'en sont remis à LeBron James pour venir à bout de Houston 119-117. King James a inscrit 30 points, fait 10 passes décisives et intercepté 4 rebonds. Chez les Pistons déjà en difficulté, Gianni Antetokounmpo a pris les choses en main et remis Milwaukee sur le chemin de la victoire 117-89. À l'ouest, le patron, c'est Utah avec un sixième succès difficilement obtenu contre Sacramento, 119-113. Enfin, les Suns, après un retard à l'allumage, ont renversé les Pelicans, 110-100.
Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg, toujours avec vous. Place au dossier du jour. Dans l'est de la République démocratique du Congo, au moins 9 personnes, dont 3 membres de forces de sécurité, ont perdu la vie lors d'une incursion de rebelles à Bukavu, la capitale de la province du Sud Kivu. Le calme est revenu et au moins 38 assaillants ont été arrêtés. Eddy Sango a joint à Bukavu le gouverneur de la province du Sud Kivu, Théo Ngwabidji Kazi.
La ville de Bukavu a connu une attaque des assaillants durant la nuit, entre 1h du matin jusqu'aux petites heures du matin, donc vers 6h. Ces assaillants ont attaqué les positions de police, hein, c'est-à-dire les commissariats de police, ce qui a amené nos forces de défense et de sécurité de réagir. Et au cours de ces affrontements, les forces négatives ont été défaites. Et aujourd'hui, nous avons une situation qui est sous contrôle dans la ville de Bukavu. Voilà ce qui s'est passé ce matin, très tôt, entre 1h du matin à 6h.
Vous parlez d'assaillants, mais sait-on qui c'est exactement?
C'est trop tôt pour connaître la nature ou les noms de ces forces négatives. Les enquêtes sont en cours, mais nous, nous savons que ce matin, effectivement, il y a des forces du mal qui voulaient semer la peine et la désolation et troubler la paix dans la capitale provinciale.
Mais il y a la région du Sud Kivu est aussi sous les opérations militaires, mais pas de l'état des sièges. Il y a quand même l'opération Sukola 2. Peut-on penser que ce sont des gens qui sont venus de l'extérieur ou de l'intérieur?
Ceux qui ont été capturés ce matin et présentés à la presse, ce sont des personnes qui sont ici à l'intérieur. Donc nous avons capturé 38 assaillants et neutralisé 8 assaillants et récupéré des armes, une quinzaine des armes par les forces de police et de défense. Donc voilà ce que je peux vous dire pour l'instant.
Et quelle est la situation exacte maintenant? La population est rentrée vaquée à ses activités?
Vous m'appelez, je suis en train de circuler dans la ville. J'ai appelé la population, bien sûr, à collaborer avec les forces de police et de défense. Mais la population, je l'ai appelée aussi à vaquer à leurs occupations, tout en collaborant, surtout, j'insiste, la collaboration avec nos forces de police. Donc la population, pour le moment, elle est en train de vaquer à leurs occupations. Évidemment, il y avait cette psychose, mais nous avons dit dès le premier heure du matin que nous contrôlons la situation. Donc c'est ça la situation actuelle.
Théo Ngwabidji Kazi, le gouverneur de la province du Sud Kivu.
Restez branchés sur VOA Afrique à Bukavu sur 97.4 FM.
La Guinée perd ses avantages commerciaux accordés par l'AGOA, cette loi américaine pour la croissance et l'opportunité africaine. Le pays est suspendu pour manque de garantie de l'état de droit et le pluralisme politique. Réaction en Guinée au micro de notre correspondant Zakaria Camara.
Dans les rues de Conakry, la suspension de la Guinée de l'AGOA divise. Des réactions mitigées, peut-être à cause du fait que cette loi américaine est peu connue des Guinéens.
Un pays peut se développer sans l'aide des autres. Donc aussi, ils ont décidé nécessaire de sanctionner la Guinée. Ils n'ont quand même sanctionné la Guinée. Mais là-bas, moi, quand même, je n'ai pas peur. Parce que je sais que la Guinée, on a des ressources. On a beaucoup de choses ici qui peuvent nous satisfaire, qui peuvent même développer le pays.
C'est un problème plus ou moins sérieux parce que c'est pas seulement les États-Unis. La première sanction a été donnée par la CEDEAO. Il n'est pas sans savoir qu'aucun pays ne peut évoluer en vase clos. Il faut forcément des relations internationales. Et donc, s'il y a un tel problème, ça, c'est un problème très sérieux. Donc, moi, je crois que la Guinée doit revoir sa copie et changer, en tout cas, la méthode afin que nous puissions régler nos problèmes avec ces pays, ces organisations
et pourquoi pas avec les États-Unis.
Le retrait de la Guinée par la Maison-Blanche de la liste des bénéficiaires de l'AGOA n'est pas sans conséquence pour le pays, explique Mamadi Kondé, économiste.
Concernant par exemple les conséquences économiques et commerciales, va s'expliquer essentiellement par la limite des opportunités que pourront tirer les opérateurs économiques qui souhaiteraient coopérer avec les acteurs économiques américains. Donc en termes, n'est-ce pas, de chiffre d'affaires, ça va entraîner une baisse de chiffre d'affaires de l'ensemble des opérateurs économiques qui pouvaient saisir cette opportunité pour pouvoir améliorer, n'est-ce pas, leur chiffre d'affaires et augmenter, n'est-ce pas, les opportunités économiques qu'ils pouvaient tirer dans leur relation avec les acteurs économiques américains. Ensuite, ça va également entraîner, certes, une baisse également d'entrée de devises au cas où le taux de volume d'exportation guinéen en faveur des États-Unis était assez significatif.
L'AGOA est une facilité d'accès au marché américain offerte aux économies africaines, à condition que les pays bénéficiaires suivent les principes de l'économie libérale. La Guinée doit être exclue le 1er janvier prochain, mais la Maison-Blanche précise qu'elle va continuer à évaluer les éventuels progrès faits sur les sujets de préoccupation, notamment les sujets de droit et de pluralisme politique. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, l'environnement et l'avenir de la planète au menu de la COP26 qui se tient à Glasgow. Selon les Nations Unies, l'Afrique est particulièrement vulnérable avec près de 120 millions de personnes qui seront exposées à la sécheresse, aux inondations et aux chaleurs extrêmes. Tout ceci alors que l'Afrique est le continent qui pollue le moins. Peut-on encore limiter le réchauffement de la planète? Comment limiter les effets du changement climatique en Afrique? Rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique et voafrique.com.
La moisson est maigre pour les démocrates à l'issue des élections locales de mardi. L'Africain américain Eric Adams a certes remporté haut la main la mairie de New York, mais c'est un républicain qui a été élu gouverneur de Virginie et un autre en passe de remporter le New Jersey. Des défaites considérées comme un revers pour le président Joe Biden et les démocrates. Comment expliquer cette déconvenue pour les démocrates? Jean-Roger Bion a joint Mohamed Mbodj, professeur d'histoire au Manhattan College. Il est joint à New York.
Ce qui n'a pas marché, c'est la mobilisation des électeurs démocrates. Il y a 3 semaines, le thème favori des démocrates aurait fait gagner haut la main. Donc la lutte contre Covid, mais depuis 2 semaines, la Covid a nettement reculé et donc les gens sont en train de regarder autre chose. Ils sont en train de parler d'inflation, ils sont en train de parler de taxes et aussi dans le cas de la Virginie, il y a aussi une mobilisation autour de l'ethnicité, donc de la race et en particulier du contenu de l'enseignement des écoles et d'une manière générale la façon de gérer les écoles qui a été un cheval de bataille pour les républicains pour dire que la manière dont on a géré la COVID et ensuite maintenant les programmes scolaires sont antidémocratiques, sont anti-américains, sont liberticides, etc., etc. Et il y a certainement ce qu'ils appellent le get out the vote, donc faire en sorte que les gens aillent voter. Je crois que cette fois-ci, les démocrates n'ont pas mobilisé autant de moyens que d'habitude ils mobilisent. Ils pensaient qu'ils étaient largement en tête et qu'ils n'avaient pas besoin donc de battre l'arrière-plan pour que les électeurs sortent et aillent voter.
Alors la victoire de l'Africain-Américain Eric Adams à New York, est-ce que on peut dire que c'est l'arbre qui cache la forêt du délitement démocrate?
D'une certaine façon, évidemment, l'adversaire d'Adams n'est pas crédible du tout, ce qui fait que c'était un peu le profil idéal pour ce type d'élection et pour que, en particulier, l'électorat qui n'est pas noir puisse voter pour lui. Et dans ce cas-ci, donc effectivement, c'est l'arbre qui cache la forêt d'une certaine façon. Il y a d'autres élections où les démocrates ont gagné, mais c'était prévisible, comme par exemple dans le Westchester, où donc les démocrates ont prévalu d'une manière générale, mais ils ont reculé ici ou là aussi. Et un peu comme vous avez dit, ils ont un peu la gueule de bois à l'échelle nationale.
Les défaites démocrates lors de ces élections de mardi, suggèrent-elles que l'ancien président Donald Trump a gagné?
Non. Il y a d'abord une tendance très américaine qui fait que le parti qui gagne la Maison-Blanche perd systématiquement ou en tout cas n'arrive pas à maintenir ses acquis dans les élections suivantes en attendant l'élection présidentielle. Donc les démocrates certainement ont souffert cette année. Il y a aussi une prédiction qu'ils vont souffrir l'année prochaine, ce qui fait d'ailleurs monter la tension au Congrès parce que l'idée est que si les démocrates ne font pas passer les plateformes et les projets de loi qui sont dans le système à ce moment-ci, ils ne le pourront pas parce qu'ils risquent de perdre encore des voix aux élections de novembre prochain.
C'était Mohamed Mbodj, professeur d'histoire au Manhattan College, joint à New York.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le prestigieux prix Goncourt 2021 décerné au jeune romancier sénégalais Mohamed Bungar Sarr pour son livre « La plus secrète des mémoires ». Ce livre s'inspire de l'histoire de l'écrivain malien Yombo Ouologem, lauréat du prix Renaudot en 1968 et qui a été accusé de plagiat et mort dans l'anonymat en 2017 à Sévaré, dans le centre du Mali. Âgé de 31 ans, Bungar Sarr est l'auteur de 5 romans. Abdourahmane Dia recueillit la réaction de l'écrivain et philosophe Souleymane Béchir Diagne de l'Université Columbia à New York.
Et il obtient cette consécration qui est le plus grand prix que l'on puisse décerner dans le monde français et francophone à un âge si jeune. Ma joie est immense et ma fierté est très grande, à la fois parce que c'est un Sénégalais évidemment, et également parce que il se trouve que je le connais et que je le connais bien.
Alors Mbougar a, comme vous l'avez dit, déjà écrit plusieurs romans à succès. Celui-ci, qui est la plus secrète des mémoires, s'inspire un peu de l'histoire quelque peu tragique d'un écrivain malien, Yombo Ouologem, mort dans l'anonymat des décennies après avoir été accusé de plagiat. Vous pensez que ce roman de Mbougar va un peu le réhabiliter?
Absolument. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'éprouve également une joie immense pour le prix que Bungar vient de recevoir, parce que c'est un prix qui, d'une certaine façon aussi, s'adresse à la mémoire de Yombo Ouologem, mort, on le sait, en 2017, il y a quelques années maintenant, au Mali, pratiquement dans l'anonymat. Et après avoir été victime de la plus grande des injustices, parce que il a été d'abord porté au pinacle, il avait obtenu. Alors justement, l'ironie de l'histoire, c'est que Yombo Ouologem lui-même avait obtenu le prix Renaudot, qui est, après le prix Goncourt, le prix le plus prestigieux dans le champ littéraire français, pour un tout premier roman en 1968, avec un livre, Le Devoir de mémoire, qui avait véritablement révolutionné les lettres africaines, qui avaient été comme une espèce de coup de tonnerre dans un ciel serein. Dans le ronronnement qui était celui de la littérature africaine, ce livre avait fait énormément de bruit. Et ensuite, on l'a accusé de plagiat, sans même se rendre compte que son livre jouait justement sur les collages. L'accusé d'avoir plagié Graham Greene ou André Schwarzbach, c'était absurde, parce qu'on aurait pu aussi bien à ce moment-là dire qu'il avait plagié la Bible ou qu'il avait plagié le Coran, puisqu'il jouait justement avec tous ces textes-là. Et donc, il a joué avec ses textes. Mais heureusement, il a été réhabilité par la suite. Et c'est une réhabilitation totale qui intervient aujourd'hui avec ce roman sur lui et sur la littérature en général que Bungar Sarr vient d'écrire.
Alors, qu'est-ce que ce prix représente pour la jeune génération d'écrivains? Il y en a d'autres, hein, comme la Camerounaise Djali Amadou Amal, au moment où il est beaucoup question de baisse du niveau général de l'éducation, du portable qui prend la place du livre.
Alors justement, ce prix est en train de porter un démenti à cette espèce de pessimisme avec lequel on est en train de regarder les lettres africaines et en général l'intelligentsia africaine.
C'était le professeur Souleymane Béchir Diagne de Columbia University. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Josèle Morissin, Michel Joseph et Lionel Gaïma. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, un seul site internet, voaafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.